Espace 2.
Les pervers narcissiques détruisent ce qu'ils aiment, entre guillemets, et aiment ce qu'ils détruisent. Une thématique qui soulève une infinité de questions autour de l'être, du mal, de la liberté et du libre arbitre. Michel Cocher au micro, Jean-Claude Gailly en régie, vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue.
À vue d'esprit.
Cher, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle place pour Dieu quand on a la haine de l'amour? Pour répondre à cette question, vous allez faire se rencontrer un psychiatre psychanalyste et une théologienne autour d'un thème que vous allez nous expliquer aussi. Il s'agit de la perversion narcissique.
Alors, pour présenter les invités, d'abord Lita Basset, on la connaît, hein, Lita Basset qui est donc pasteur, prof de théologie, écrivain, auteur d'ouvrages comme Guérir du malheur et Culpabilité et paralysie du cœur. Et l'autre personne invitée, c'est Maurice Urny, médecin psychiatre et psychanalyste, qui est l'un des précurseurs avec docteur Racamier, entre autres, de ce monde qu'est la perversion narcissique, en tout cas de son étude, de son analyse, de son approche. C'est un monde qui existe depuis toujours, mais qu'on a enfin pu nommer, étudier, analyser. Et autant le dire, c'est un monde implacable, c'est sans foi, ni loi, sans pitié, sans scrupule et qui ne doute de rien.
Mais ça veut dire que c'est là qu'il faut trouver l'explication du sens narcissique?
Alors, quand on dit perversion narcissique, on entend les deux mots. Perversion, on va largement venir là-dessus. Bon, d'abord, il faut comprendre qu'un pervers narcissique ne naît pas comme ça. Il a subi un certain nombre de traumas super grave en général, et quand on subit ça, il y a un enfermement tout au fond de soi de ces choses intolérables, et on se relève le lendemain matin, on fait bonne figure par fierté, on crée ce qu'on appelle un artifex. Cet artifex est polymorphe et s'adapte complètement à vous. Dans la séduction, il vous imite, il imite l'autre à qui il veut plaire. Le mythe de Narcisse, vous le connaissez. Narcisse ne s'aime pas lui-même, il aime son image, il la recherche, hein, et au point de se confondre avec. Donc ses personnalités se confondent avec leur image à un moment donné. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'être admirées et recherchent le regard de l'autre. Voilà d'où vient le mot Narcisse.
Alors on vous suit dans cette émission, je rappelle, avec Maurice Urny et Lita Basset.
N'allez pas au pays des sans-lois, ceux-ci ont découvert la pierre philosophale qui change les douleurs de la vie en l'or pur du plaisir. Chez eux, pas de limite, chez eux, rien qui borne votre envie. Vous pourrez y faire tout ce que vous voudrez, car tout est égal, vous pourrez passer vos nuits à lire Spinoza si cela vous soulage, ou plus probablement, car enfin nous connaissons notre pente, aux orgies qu'il vous plaira. On ne vous reprochera même pas d'y chercher la mort par le moyen qui vous séduit, on ne vous reprochera même pas de violer celui ou celle qui vous tente, de le torturer et d'y trouver jouissance. De faire mourir qui vous gêne, puisque tel est votre bon plaisir. Si l'autre veut bien, c'est bien. S'il ne veut pas, il n'a qu'à se défendre. Et s'il ne peut pas, qui puis-je? Dans cette foule libre et joyeuse, vous ne rencontrerez personne. Respirez-y les parfums à profusion répandus. N'y respirez jamais à fond. Vous pourriez sentir l'odeur fatale, l'odeur de la mort. Et ça, c'est un texte terrible signé Maurice Belay, qui est extrait des Survivants, qui est paru donc aux éditions L'Harmattan. Voilà, Lita Basset, Maurice Urny, je vous ai envoyé ce texte-là il y a quelque temps. Juste une impression en quelques mots, une réaction de l'un, de l'autre.
Oui, en ce qui me concerne, donc, ce texte me parle énormément. Je crois que M. Belay a saisi là une des données essentielles du thème que nous allons développer au cours de ces émissions, qui est donc la perversion narcissique ou relationnelle, selon comment on l'appelle. Et notamment le thème, disons, du changement de la douleur ou la souffrance en plaisir, ça c'est une chose que je retiens pour l'instant.
Quant à moi, je voudrais dire d'entrée de jeu qu'il parle du pays des sans-lois, comme s'il y avait une catégorie bien définie, mais je suis frappée par le fait que cette absence de limite, on la rencontre tous les jours parmi nos proches, nous-mêmes dans nos propres histoires, et que c'est finalement quelque chose de très répandu, et qu'on ne pourra pas stigmatiser comme ça des gens un pays des sans-lois. Voilà. L'autre chose, c'est que je suis très frappée par la fin du texte, l'odeur fatale, l'odeur de la mort. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est vraiment ce passage à côté de la vie. J'ai pas pu m'empêcher de penser à la phrase de Jésus dans les évangiles quand il dit aux pharisiens: non seulement vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans une vie qui vaille vraiment la peine d'être vécue, mais vous-même vous n'y entrez pas. C'est assez effrayant de voir comme c'est d'actualité, quoi.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne souffrant de perversion narcissique est en somme une personne dont, j'allais dire, les structures les plus profondes ont été gravement blessées? En somme, qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique?
Oui, bien écoutez...
ne naît pas pervers narcissique,
non, on le devient. Freud disait que l'enfant est un pervers polymorphe, mais ça c'est autre chose, disons, c'est une sorte de stade tout à fait normal de l'évolution psychosexuelle. Tandis que la notion de pervers narcissique date d'une trentaine d'années, c'est une sorte de découverte, entre guillemets, d'un psychanalyste français qui s'appelle Paul-Claude Racamier, qui avait commencé par faire des psychanalyses de gens plus ou moins névrosés, ensuite a approfondi ses traitements avec des personnes beaucoup plus gravement touchées dans leur être, qui sont les psychotiques. Le psychotique, c'est vraiment un écorché vif. C'est une personne qui ne distingue plus ce qui lui appartient, ce qui appartient aux autres, qui est dans une sorte de tumulte,
d'amalgame,
de tumulte, enfin tous ces mots-là, mais vraiment avec une souffrance insupportable. Et donc Racamier a été explorer ce domaine très difficile, donc du délire pour dire aussi. Et puis, il a été amené dans ses explorations à tenir de plus en plus compte de l'environnement. Il a bien vu que ces gens, contrairement aux névrosés, n'avaient pas beaucoup d'autonomie. Et il y avait des interactions autour d'eux très, très virulentes, très fortes. Il y avait souvent beaucoup d'autres problèmes dans ces familles, pas seulement un schizophrène. Bref, et c'est en explorant jusqu'au fond de ce qu'on pouvait comprendre de ce drame qu'il a été amené à découvrir une sorte de nouvelle pathologie qui est la perversion narcissique, c'est-à-dire au-delà de la souffrance, il y a là une impossibilité à assumer, à gérer, disons, cette souffrance, et donc une expulsion sur les autres de cette souffrance. Il y a là une sorte de passage de bascule assez radical. On pourra parler, savoir si c'est réversible ou pas, là ça se discute. Mais grosso modo, l'idée, en tout cas dans la perspective de Racamier, c'est que cette expulsion des problèmes sur les autres se faisait de façon organisée, c'est-à-dire ce n'est pas un mouvement d'humeur comme il peut arriver à n'importe qui se trouve en désarroi, et de façon aussi...
C'est délibéré.
Délibéré, et encore pire, c'est plaisante. Il y a une façon d'éprouver du plaisir à ça. Et donc là, on est vraiment à l'envers de toutes les catégories de souffrance, de détresse. C'est une notion qui est tout à fait révoltante et qui nous a amené à beaucoup nous interroger sur ces pathologies. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour quelqu'un qui ne souffre pas, par exemple?
Donc si je comprends bien, un pervers narcissique, c'est un névrosé à la naissance, enfin c'est un enfant qui, conditionné par ou un entourage familial ou par des choses qu'elle a subies, cette personne-là, peut se retrouver avec quelque chose au fond d'elle, une espèce d'angoisse psychotique tout au fond d'elle, qui a besoin à un moment ou à un autre de ressurgir et de se défouler ailleurs. C'est un peu ça.
Je reprendrais plutôt l'idée d'une sorte de souffrance indicible qui n'a pas de place, pas de possibilité d'expression et qui donc à ce moment-là amène la personne
à la projeter.
À la projeter dehors.
Voilà, et même on pourrait dire l'expulser. C'est-à-dire au fond d'une sorte de manipulation ensuite de l'autre, n'est-ce pas ? Le pervers va injecter cette souffrance dans la personne en question, la victime, pour dire comme ça, avec des grandes catégories. Et ce qui est assez terrible, c'est donc que ce qui va injecter chez l'autre, bien sûr, c'est sa souffrance, bien sûr, ce sont ses conflits intérieurs, mais c'est en réalité sa partie la plus vivante. On retrouve là l'idée, au fond, du pervers un peu mort-vivant, qui aurait là des solutions d'extrême survie, mais qui aboutirait à une sorte de compromis épouvantable. Donc, le pervers va se trouver dépossédé d'une partie de lui-même qu'il aura lui-même mis chez les autres, et donc il va ensuite être très dépendant de ces autres.
Comme une mafia, ça devient comme une mafia.
Alors exactement, il y a des liens là de terreur, d'emprise ou de séduction.
Manipulation, de codépendance.
Voilà, qui vont être mis à l'œuvre. Les pervers sont des artistes, n'est-ce pas, pour arriver à, disons...
À amener à l'autre à rester à sa place.
Oui, à jouer son rôle de support, de souffrance, qu'ils vont d'ailleurs observer avec une grande délectation. Bref, ça c'est un peu le mécanisme de base, mais dans les couples, évidemment, ça se complique parce qu'on en a deux.
Et ce sont surtout des couples que vous avez évoqués dans ce livre, La perversion du lien, la haine de l'amour. Lita Basset, à entendre ça, être aux yeux de Dieu... Qui sommes-nous aux yeux de Dieu? Il est souvent question donc d'un Dieu, je sais que vous allez réagir très fort sur ce que je vais dire maintenant, mais c'est vrai que dans l'esprit commun, ou quand on lit même la Bible comme ça, il est souvent question d'un Dieu qui juge sévèrement ceux qui refusent de se remettre en question. Or, la remise en question, justement en profondeur, supposerait un voyage infernal sous le déni, dans les abîmes des blessures subies, ou justement la psychose dont parlait M. Urny. Est-ce que ça supposerait que ce choix-là est un choix... que Dieu nous laisse, à n'importe qui, qu'on soit pervers narcissique ou pas.
Chaque être humain, même un pervers narcissique, il a au cœur de lui-même un noyau d'être, on va dire. Il est dit que Dieu fait sa demeure dans tout être humain. Il y a une phrase extraordinaire dans le livre d'Osée où il dit « Dans tes entrailles, je suis saint ». Et saint, ça veut dire différencié, mis à part. C'est-à-dire, même au cœur du cœur de ton intimité, même si tu es un pervers narcissique de la pire espèce, moi, Dieu... J'ai fait ma demeure en tout être humain. Donc, j'ai réagi au fait que quand on perçoit Dieu comme quelqu'un qui juge sévèrement ceux qui refusent de se remettre en question, je dirais plutôt que c'est pas Dieu qui vient juger sévèrement, comme si il disait tu t'es pas remis en question, alors tu mérites ça. Pas du tout. Moi, c'est pas du tout ça que j'entends dans les textes. Ce que j'entends dans les textes, c'est tu te remets pas en question. Tu as des yeux pour voir et tu ne les ouvres pas. Tu as des oreilles pour entendre et tu ne les ouvres pas. Eh bien. Ne t'étonne pas que tu te retrouves dans une vie infernale. Et j'ai pas besoin d'un enfer pour après, c'est d'ailleurs pas dans les textes du tout. L'enfer, il est ici. Et je crois que M. Urny sera d'accord de dire que ces gens qui sont dans ces mécanismes de perversion narcissique ne sont vraiment pas ailleurs qu'en enfer, d'une certaine manière. Bon, l'enfer est aussi joliment dans l'entourage, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une punition extérieure parce que tu ne t'es pas remis en question. Non, tout au long de la Bible, il nous est proposé d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les yeux, de façon à mieux nous connaître nous-mêmes et mieux accéder à prendre conscience de nos dysfonctionnements. Et sous ces dysfonctionnements, quelles sont les blessures qui sont en général très occultées, très enfouies, très cachées, qui ont provoqué cette mise en place de ces de dysfonctionnement là. Alors, face à ça, j'ai envie de répondre à votre question. Oui, on a toujours un minimum de liberté, ne serait-ce qu'un tout petit choix. C'est-à-dire, ça va peut-être être vraiment dans l'ordre des actions au quotidien. Je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça par rapport à ce problème-là, mais... je crois que vous avez aussi évoqué, Monsieur Urny, tout à l'heure, le fait que, ou peut-être c'était dans la discussion avant qu'on commence, que il y avait quand même, il y avait des éclairs de lucidité par moment, et que il y avait des, c'est pas aussi monolithique que ça, même s'il y a des cas terribles, mais il y a toute une frange de population dont nous faisons peut-être partie à certains moments nous, autour de cette table, qui pouvons être pris dans des mécanismes de cet ordre-là. Eh bien, je crois que il y a, du fait qu'on est un être humain, on a toujours un petit minimum de choix dans nos actions et nos paroles au quotidien, même si c'est tout petit.
Vous avez l'impression, dans les couples que vous avez étudiés, accompagnés, qui sont évoqués justement dans votre livre, l'impression de ce libre arbitre-là, quand vous parlez des fois de dérapage névrotique, de moments de lucidité, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a un libre arbitre encore? Ou alors c'est vraiment plus fort qu'eux et c'est une espèce d'encloisonnement désespérant, une espèce de non-être, vous parliez de mort?
Je suis un peu partagé parce que j'adhère tout à fait profondément à ce que vous dites sur la nécessité d'envisager l'être humain fondamentalement, j'emploie un mot que de la rédemption, enfin mm-hmm. l'idée qu'il y a là une marge.
Qu'il y a une évolution possible,
toujours,
dans le sens d'une libération. Ouais.
Voilà, jusqu'au dernier moment tout de la fait. Vie, si ouais. la pire crapule, le pire mm-hmm. assassin mm-hmm. Est susceptible d'avoir un changement radical. Mm-hmm. Mais ça, je dirais, ça c'est une vision de théologienne et que je respecte alors tout à fait. Je dirais simplement pour notre pratique, tout alors encore une fois en ayant en tête ce modèle de l'être humain, notre effort, et vraiment c'était un effort, ça a été la découverte du mal. La méchanceté, de la cruauté, mm-hmm. délibérée, de la méchanceté organisée, etc. Nous avons, en tout cas les médecins et peut-être d'autres gens, une tendance quand même à voir les choses sous un jour un peu édulcoré ou aimable. Ou mm-hmm.
Compassionnel,
mm-hmm. névrotique. Et alors, du point de vue, disons, de ma profession, maintenant, je considère qu'il y a certaines façons de névrotiser les gens qui sont proches d'erreurs professionnelles. Ce sont des catégories qui n'appartiennent pas quand il y a quelqu'un qui fait du mal à un enfant. Vous voyez, ça n'a rien de névrotique. On ne peut pas adopter des mêmes catégories. Là, il faut trouver de nouveaux paradigmes.
Justement, quand il fait du mal à un enfant, je trouve que l'exemple est très fort parce que nous savons très bien à quel point l'être humain a tendance à reproduire ce qu'il a subi.
Voilà.
Et c'est là qu'intervient la prise de conscience possible. Là, je pense tout à coup à la justice réparatrice telle qu'elle se vit actuellement au Québec et aussi un peu en Belgique, et ça vient en France, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où j'ai été en lien avec des aumôniers de prison qui sont en plein là-dedans, où en fait l'idée c'est de faire rencontrer les détenus qui ont commis des actes abominables, de leur faire rencontrer soit leurs propres victimes, soit des gens qui ont été victimes de choses similaires, et pour que progressivement ces détenus rentrent en contact avec qu'est-ce que ça fait à quelqu'un, un être humain, d'être traité de cette manière-là. Parce que l'idée, c'est que ces détenus ne sont plus du tout en contact avec leur propre souffrance. Et ils ont des résultats assez extraordinaires. Hein. Je crois beaucoup plus à la politique des petits pas. Et c'est pour ça que je disais, une liberté, si j'ai un tout petit peu bougé, j'ai fait une toute petite prise de conscience, c'est déjà un pas en avant. Et vraiment, la capacité d'un détenu n'était pas complètement anéantie, progressivement, de s'ouvrir à qu'est-ce que ça fait à un être humain d'être traité de cette manière-là. Mmh. Évidemment que c'est difficile à faire parce que mmh. ça les mettait en lien avec ce qu'ils avaient subi eux-mêmes.
Bien sûr,
évidemment.
C'est pour ça qu'ils n'aiment pas la souffrance. Ça les énerve, la souffrance des
Exactement.
Autres. Ou alors ils y prennent plaisir.
Oui, mmh. mais on voit quand même qu'il y a des ponts qui se font. Mmh. Même si, alors...
Mais ça peut être terrible pour les victimes parce qu'en général, puisqu'ils ne souffrent pas de culpabilité...
Au départ, non.
Ils ne savent pas demander pardon.
Non, mais au départ, ces détenus ne sont pas du tout en contact avec leurs blessures profondes. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas du tout avoir des regrets quelconques pour ce qu'ils ont fait. Au fond, ces gens qui travaillent dans ces milieux, ils parient sur le dialogue.
Mais quand même, Lita Basset, moi, j'aimerais revenir sur cet état de siège désespérant dans lequel ont l'air d'être fixés les pervers narcissiques. Ça ressemble à une damnation, à un enfer enfui. Nous, on ne peut pas mesurer. De toute façon, chaque souffrance est individuelle. Mesurer oui. la souffrance qui est sous-jacente chez ces personnes-là, vous dites, Maurice Urny, que c'est l'angoisse, visiblement, là-dedans. C'est,
mais moi,
c'est
j'aime pas
horrible.
Que vous employiez le mot damnation, parce que mmh. qui damne ?
Oui.
Personne ne damne.
Justement, il y a l'air d'être un destin, d'être une non-liberté,
non,
là.
Moi, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a la possibilité, et qui est toujours clairement affirmée dans les textes, mais dans la réalité, c'est vrai aussi, c'est que quiconque, même avec un très lourd héritage, quiconque a ce désir d'en sortir, même très minime, c'est pas du tout une damnation. Il y a rien qui, à l'avance, prédétermine que tel être humain serait condamné à ne jamais s'en sortir. Non, moi, ça, je peux pas.
Mmh. Oui. Pour donner une sorte d'éclairage médical, disons, ou psychothérapeutique de ce problème. Ce à quoi nous devons renoncer en tant que thérapeute, c'est que des gens gravement perturbés, comme sont ces organisations perverses, manifeste une demande de changement similaire à celle d'un névrosé ordinaire qui souffre et recherche une aide, une compréhension, avec déjà comme terrain de base l'idée de l'intériorité, par exemple. Donc là, nous avons plus d'intériorité, nous avons un champ de bataille avec des décombres sur lesquels l'individu essaye de survivre tant bien que mal. Et c'est... Comment dire,
les demandes sont souvent techniques. Enfin, voilà, alors, souffre de ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire?
Même pas. Disons, elles peuvent être techniques dans le sens que nous, alors, on appellerait psychosomatique, par exemple. Donc, il y a une sorte d'utilisation du corps pour solliciter une aide. Elles peuvent être beaucoup plus étranges encore, ces demandes. Je me souviens d'un pervers que j'ai soigné il y a quelques années, qui était pédophile et qui a été interpellé par la police, convoqué au commissariat, interrogé. Probablement qu'il avait nié, un bon pervers. Bref, ensuite il y a eu toute une enquête, etc. Et on a eu l'occasion de revenir bien plus tard sur ses premiers temps. Et lui-même s'interrogeait et se disait, au fond c'est très curieux, entre ce moment, la première convocation et l'arrivée de la police à la maison, il y a eu une quinzaine de jours en réalité. Et sa maison était bourrée de matériel pornographique, de revues, de films, tout ce qu'on veut. Et il dit, j'aurais eu le temps, en 15 jours, de tout bazarder, et je ne l'ai pas fait.
Mais voilà.
Et donc, lui-même est arrivé à l'idée, pour moi évidente, qu'il avait envie qu'on l'arrête.
Oui, tout à fait. Je peux confirmer ça par un exemple, si vous permettez, du même ordre. Quelqu'un que je connais de façon très proche, qui a été accusé, et qui est dans le déni total. Et moi, par un certain nombre de faits qui se sont recoupés, ça m'a sauté au visage que c'était vrai. Et ça pouvait mettre fin à l'amitié, mais j'ai dit non, ça ne mettra pas fin à cette amitié. C'est une amitié exige la vérité. Et moi, je lui ai dit, j'ai la conviction, c'est plus qu'une conviction, ça m'a sauté au visage que c'était vrai. Et bien qu'il soit dans le déni total, il m'a écrit récemment qu'il me remerciait pour mon courage. C'est incroyable cette petite phrase au milieu d'une lettre entière de déni. Et je trouve que ça va totalement, complètement dans le sens de ce que vous venez de dire.
C'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de récits de serial killers comme ça qui ont fait un autogol à la fin en laissant des traces tellement énormes. À la limite, ils mettaient les panneaux en disant « c'est par ici ». Ils ouvrent un journal et puis un portrait robot et puis voilà, vous n'avez plus qu'à m'attraper pour que cette horreur s'arrête quelque part.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est justement une aspiration quand même profonde à la vérité et à refaire l'unité de leur être?
Oui.
Il faut qu'on m'arrête. Enfin, je ne sais pas où je vais m'arrêter. C'est un peu ça, non?
C'est une course sans fin.
Je ne maîtrise plus rien.
C'est
à vous de faire en sorte que je m'arrête. Bon, ce qui pose bien des problèmes du point de vue de la responsabilité, etc. Mais c'est vrai que ça pose aussi le problème de l'environnement et de la complicité, disons, de l'environnement.
Du silence des gens bien.
Du silence, enfin de toutes sortes de complicités. Et là, j'aimerais vraiment souligner cet aspect-là, parce que je crois que l'aspect permissif, l'aspect laxiste de la société actuelle est un très mauvais service qu'on rend à tous les pervers en banalisant, en disant finalement, après tout, si c'est quelqu'un veut faire comme ci et comme ça, nous sommes dans une société progressiste.
S'il veut bien, c'est bien. S'il veut pas, il a qu'à se défendre.
Voilà, c'est ça. Entre adultes consentants, etc. Voilà. Eh bien, je crois que cette attitude qui pourrait se légitimer pour d'autres personnes, pour les pervers, est une catastrophe parce qu'ils n'ont plus de résistance, il n'y a plus d'écran.
Il n'y a plus de repères.
De repères, bien sûr, ça, il n'y en a jamais eu, mais enfin, encore moins.
Et donc, plus de limites.
Voilà, de buter, disons, à leur pulsion. Et à ce moment-là, la tendance perverse, c'est toujours celle de l'accroissement. C'est d'aller toujours vers le plus de stimulation.
C'est un phénomène de survie, finalement.
Il y a survie, il y a le fond. tout à l'heure, enfin, on parlait des abus dont eux-mêmes avaient été victimes. Mmh. Là aussi, il faut faire un peu attention. Parce
oui,
que...
il y a toutes sortes d'abus. Hein.
Oui. Il ne faut pas faire une équation, disons, mmh. comme ça, et qui mmh. dirait, voilà...
Mais toutes les personnes qui ont été abusées ne deviennent pas des abuseurs.
Non, non,
il faut
non,
le dire
non,
une
non,
fois
non,
pour toutes.
Non, mais l'inverse, moi, j'ai pu constater, dans le cas que je vous disais, une rage quand j'ai évoqué la possibilité que ça soit en lien avec un abus qu'il a subi lui-même.
Mmh.
Et,
déni.
Et tout à coup...
Certainement pas, j'ai réglé ça
non,
depuis longtemps.
Non, et je l'en... Voilà, c'est ça. Et en fait,
je suis sortie de ça
à mon avis, la réaction violente quand j'ai émis cette possibilité me montre que, justement...
Il n'y a que la vérité qui blesse.
C'est ça.
Mais justement, ces abus ont une sorte de double face. Il y a l'aspect d'agression qui est absolument terrible et répréhensible. Et il y a l'aspect appel au secours ou message, mettons, qui souvent, comment dire, serait du type « regardez ce que moi-même on m'a infligé
oui,
autrefois ».
C'est ça.
Et alors, il faut décrypter ce message. Mm-hmm. Ce n'est pas des fois à l'identique, ce n'est pas oui, une répétition. Mais il y a là un effort pour l'environnement, justement, un peu sensé, de non seulement résister en disant « ça, je ne suis pas d'accord avec ce oui, comportement ou cette attitude, etc. » mais en plus de comprendre qu'est-ce que ça veut dire.
Oui, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, la personne ne peut pas nécessairement qu'on l'accompagne à non, aller voir quel était non, son traumatisme au départ.
Mais ça fait mal, là, en bas.
Et c'est ça.
Disons, en réalité, il y a là une sorte de paradoxe. Mmh. Elle veut qu'on le sache, mais
oui,
sans qu'on le sache.
Oui.
Et c'est là, comment dire, l'art du thérapeute.
Elle se présente comme victime, elle-même.
Oui.
Et en même temps, elle ne veut pas, d'une certaine manière, elle ne veut pas aller dans la blessure de la victime.
Voilà.
Qu'elle porte en elle.
Voilà.
Oui.
Lita Basset, pour finir ce premier jour sur l'être, on a vraiment envie de vous entendre dire qu'il y a une étincelle divine en chaque humain.
Il y a du divin en chaque être humain, c'est dit dès les premiers versets de la Bible, et y compris dans le Nouveau Testament, on retrouve cette idée que nous, il n'y a que Dieu qui sait ce qui subsiste au cœur d'un être humain aussi maléfique soit-il. Judas, je disais qu'on pouvait considérer que c'était un beau pervers quand même.
Et l'a piégé, il l'a manipulé.
Ouais,
le
et puis
il l'a embrassé
pour lui montrer que c'est lui qu'il faut arrêter et torturer à mort. Et qu'est-ce que fait Jésus face à ça? Il l'accueille comme un être humain.
Mm-hmm.
Et même comme un être humain qui est le premier à avoir besoin du pain de vie, puisque dans le dernier repas, à qui il donne la bouchée finalement, et dans des paroles et des gestes qui font complètement penser à l'institution de l'Eucharistie, de la scène, dans les autres évangiles, il lui donne cette bouchée de pain, comme donner de dire le premier qui en a besoin, c'est toi, Judas. Et mais la relation, ils ne la rompent jamais. Il n'est pas menacé, au fond, pour finir, il n'est pas du tout menacé par Judas, parce que Jésus, lui, s'enracine dans justement ce qui est le plus indestructible en lui, qui est cette part divine.
Maurice Urny était vos invités, Anne Bécher, autour de ce thème de la perversion narcissique, avec comme premier rendez-vous aujourd'hui le thème de l'être. Alors, demain, on retrouve ces invités autour de quel thème?
Bien, demain, nous aborderons la question du mal. Le mal qui est une composante centrale chez les pervers narcissiques, mal subi, mais aussi mal rendu par la destructivité, entre autres, et la déshumanisation de l'autre qui n'est qu'un objet utilitaire.
Merci un de mes chers rendez-vous pris. Jean-Claude Gailly réalisait cette édition. Vous pouvez la prolonger par un coup de fil pour une réaction ou la commande d'un CD au 021 318 60 70 ou encore une visite sur notre site www.rsr.ch/esprit. Merci un de mes chers. Suite du programme d'Espace 2 d'un air entendu.
Cette année, Mozart aurait 250 ans. Pour célébrer cet anniversaire, Espace 2 vous propose plusieurs rendez-vous. Aujourd'hui, musique en mémoire, à 9h et à minuit, avec quelques-uns des meilleurs spécialistes du compositeur. À 20h, soirée Mozart avec un beau concert. Et le 27 janvier, dès 6h, journée spéciale sur Espace 2. Renseignements sur www.espace2.ch.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.